Bon, merci à tous d'être présents pour la présentation du projet d'aménagement des Ardillos à Mérignac. On va commencer cette présentation par un petit film qui va vous être commenté par la suite. Donc, le projet d'aménagement des Ardillos, c'est un projet qui est réalisé sur un foncier de 4,7 hectares. Donc, il est situé à Mérignac, à proximité immédiate de la mairie et de la Rocade. Donc, un emplacement assez phare dans Bordeaux Métropole. C'est un foncier qui était de la propriété de Mésolia. Et sur lequel nous avions construit dans les années 60 200 logements en R+1, donc c'est des bars qui ont été construites, donc 200 logements qui ont été construits, qui sont aujourd'hui devenus obsolètes en termes thermiques, en termes acoustiques, et un grand parc de stationnement qui est 100% aérien, et qui empêche un espace convivial, un espace commun sur ces logements. Ces 200 logements étaient devenus des passoires thermiques et il était nécessaire de faire une rénovation lourde pour pouvoir les remettre au niveau réglementaire actuel. Une réflexion a été menée par Mésolia de savoir si la rénovation valait le coup d'être faite ou si on pouvait à ce moment-là détruire pour reconstruire et densifier l'opération. Il a été décidé de démolir les logements et de densifier l'opération. On avait des locataires, évidemment, dans ce parc habité qui étaient présents. Il a fallu les reloger. Donc, on a proposé aux locataires d'être logés dans le parc existant de Mésolia sur des bâtiments à proximité de l'opération ou dans les logements vacants qui n'étaient pas démolis dans un premier temps, puisque, afin de réaliser cette opération, elle a été réalisée en tiroir, c'est-à-dire que la phase 1 de l'opération, qui est entourée en rouge, a été démolie dans un premier temps. L'ensemble des locataires habitant dans les 120 logements qui ont été démolis dans un premier temps ont été relogés, soit dans le parc existant de Mésolia, soit dans les bâtiments de la phase 2 en turquoise, ce qui nous a permis de démolir les 180 logements et de commencer la première partie de l'opération. Une fois qu'elle sera terminée, les locataires habitant dans la phase 2 actuellement de l'opération emménageront dans les nouveaux logements construits dans la phase 1, puis nous démolirons les 80 logements restants de la phase 2 pour construire la deuxième et dernière partie de l'opération.
À Gradignan, un pacte a été
pour monter cette opération,
donc
c'est 526 logements qui ont été construits en lieu et place des 200 existants. Nous avons composé et qui sont répartis sur 13 bâtiments. Donc il y a 5 équipes de maîtrise d'œuvre qui ont été choisies et qui ont été sélectionnées pour réaliser ces bâtiments. Et il était important pour nous que ces bâtiments soient construits en concertation avec Bordeaux Métropole et la ville de Mérignac, puisque c'est vraiment un nouveau quartier qui va être réalisé, qui va chambouler un petit peu toutes les habitudes urbaines du quartier, derrière la mairie. On avait aussi la nécessité de désenclaver le quartier Pichet qui est situé du côté de la rocade et qui n'était pas accessible au tram. Voilà, donc il y avait plusieurs sujets qui avaient été mis sur la table. Pour cela, il y a un architecte coordonnateur qui a donné les grandes lignes directrices du projet et 5 équipes d'architectes qui ont été sélectionnées pour réaliser 2 à 3 bâtiments avec différents maîtres d'ouvrage, puisqu'on va voir que Mesolia, en tant qu'aménageur, a réalisé un certain nombre de bâtiments en tant que promoteur et a aussi donné la maîtrise d'ouvrage directe à certains promoteurs qui sont également sur l'opération. Voilà, cette concertation a eu lieu entre février 2012 et octobre 2012. Et c'était des réunions plénières où l'ensemble des équipes d'architectes étaient présentes, les bureaux d'études, les SPS et bureaux de contrôle évidemment, et bien sûr Bordeaux Métropole et la ville de Mérignac. Voilà le plan masse de l'opération. Donc on reconnaît le découpage du foncier qu'on a vu précédemment et la division qui permet de scinder en deux l'opération avec la tranche 2 en bas qui correspond à la phase 2 de l'opération sur laquelle actuellement il y a encore des bâtiments anciens existants et la tranche 1 de l'opération, donc au nord du trait pointillé noir, sur laquelle nous avons déjà démoli les anciens bâtiments et sur laquelle nous sommes en train de construire actuellement les futurs bâtiments. Donc sur ce grand foncier de 4,7 hectares, il a été déposé un permis d'aménager pour pouvoir réaliser ce nouveau quartier. Ce permis d'aménager a permis de découper l'îlot en 3 lots qui sont dessinés en rouge, et ces îlots sont séparés systématiquement par les 2 venelles qu'on appelle venelle A et venelle B, qui seront des venelles rétrocédées à Bordeaux Métropole et qui ont pour vocation, évidemment, à desservir les différents bâtiments. Elles servent aussi pour les accès pompiers, les accès ordures ménagères et tous les services techniques. Mais par contre, c'est un îlot qui n'est réalisé que pour des cycles doux. Donc il n'y a pas de passage véhicule qui seront autorisés, si ce n'est les services techniques. Il n'y aura que des pistes cyclables et des modes de véhicules doux. Ces 2 venelles, donc, ont été découpées dans le cadre du permis d'aménager pour être rétrocédées à Bordeaux Métropole. Sur les 3 lots, il a été déposé systématiquement, les 2 venelles rétrocédées à Bordeaux Métropole. Sur ces 3 lots, il a été déposé 3 permis de construire. Les 2 premiers, le PC1 et le PC2, ont été déposés en 2013, puisque aujourd'hui, nous réalisons déjà 100% du PC2, et du coup, la moitié du PC1, les bâtiments G et F1 que vous voyez au nord de du trait noir. Puisque je vous rappelle, au sud du trait noir, il y a encore des bâtiments existants de la phase 2, les 80 logements dans lesquels les locataires ont été, sont encore en place. Et dans un deuxième temps, une fois que la tranche 1 sera terminée, la deuxième partie du PC2 sera exécutée avec le PC3. Le PC3 est du coup en cours d'instruction aujourd'hui auprès des services de la ville de Mérignac. Donc 3 permis de construire valant division ont été déposés. On a déposé des permis de construire valant division parce que sur chacun des permis, il y a différents maîtres d'ouvrage. Donc Mesolia reste aménageur, mais il y a différents maîtres d'ouvrage. Et il y a surtout cette arête centrale qu'on appelle. C'est une piste cyclable qui permet justement de désenclaver le quartier Pichet dont je vous ai parlé juste avant et qui permet d'accéder à la station de tram de la mairie de Mérignac qui a été réalisée récemment sur la ligne A. Ces venelles, si vous voulez, cette piste cyclable n'a pas le même statut que les venelles puisqu'elles sont découpées dans le cadre du permis de construire. Donc c'est bien le permis de construire valant division qui a permis de découper ces venelles en volume, donc c'est-à-dire qu'on a des, la propriété de Bordeaux Métropole n'est que de certaines cotes NGF, et en sous-sol, on reste propriétaire, mais au-delà des parkings, puisqu'on a des grands parkings traversants qui passent sous les volumes futurs de la Bordeaux Métropole. Alors que les deux venelles A et B, elles, ont été découpées dans le cadre du permis d'aménager et donc sont en pleine propriété à Bordeaux Métropole. C'est deux statuts différents. Sur chaque îlot, il a été ensuite découpé les volumes des bâtiments, puisque pour permettre une mixité sociale sur l'opération, Mésolia réalise un certain nombre de bâtiments, 317 logements exactement, sur l'ensemble de son opération, que l'on gardera en propre pour le parc locatif Mésolia. Notre maison mère, Toit Girondin, réalise deux bâtiments qui permettent de faire de l'accession sociale, donc du PSLA ou de la VFA. Elle réalise un bâtiment actuellement dans la tranche 1 qui sera livré début 2018 et le deuxième bâtiment sera réalisé dans la tranche 2 qui sera livré en 2020. On a ensuite des promoteurs privés, donc on a découpé pareil les volumes des bâtiments des promoteurs privés qu'on a vendu à, pour la tranche 1, on a vendu le bâtiment K à Eiffage sur le PC1. Le bâtiment F1 du PC2, on l'a vendu à Nexity et G à Fiché. Donc il y a aussi de l'accession libre sur cette opération. Dans la tranche 2, nous avons vendu, ou nous sommes en train de vendre, le bâtiment C2 au promoteur Acprime. Et enfin, les bâtiments Mésolia. Donc il y a un certain nombre de bâtiments qui vont être livrés dès à présent, dès mars 2018, pour du locatif social. Il y a 167 logements qui sont livrés en mars et ensuite il y en a 150 à nouveau qui seront livrés en 2020. Donc pour ce faire, on a demandé à plusieurs équipes d'architecture de réaliser les architectures des bâtiments. On a essayé de réaliser un panel un peu différent pour chaque équipe d'architectes. Notamment, les architectes travaillent systématiquement soit avec Mésolia et un promoteur privé, soit avec Mésolia et le Toit Girondin qui fait l'accession sociale, ou alors même peut-être avec les trois. Déjà pour permettre une diversité de maîtrise d'ouvrage. Et ensuite, les bâtiments de chaque architecte ne sont pas dans les mêmes lignées. On a essayé de faire un panel un peu différent en les laissant dans la même phase parce que c'est une temporalité complètement différente entre la tranche 1 de l'opération et la tranche 2. Mais pour avoir, parce que quand on construit 526 logements, il faut naturellement une architecture commune pour que le paysage urbain soit cohérent, mais une diversité architecturale tout de même et éviter la monotonie. Donc Michel Moga qui est présent nous expliquera comment la concertation a été menée et comment les lignes communes directrices ont pu être intégrées différemment par les différentes équipes de maîtrise d'œuvre. Alors sur le volet paysager, qui était un volet assez important, je vais laisser la parole à Anouk, la paysagiste, qui connaît bien mieux que moi le sujet.
Bon, alors ce qu'on peut dire, c'est que ce qui a été un peu exceptionnel dans cette démarche, en tout cas en 2012, c'est qu'un urbaniste et un architecte, étaient à la tête de ces ateliers qui ont fait en sorte que le projet a émergé. Donc en fait, tant de bâtiments différents étaient quand même soumis à un cahier des charges et à une forme particulière donc qui a été donnée par l'urbaniste. Et tant d'architectures différentes permettaient aussi d'être homogénisées par un paysage prévu donc par nous. Alors ce paysage, en fait, il s'est d'abord basé sur la topographie. On a un point haut qui est sur l'angle ici, en bas à gauche, et un point bas qui est vers la mairie. Donc on a tendu un grand arc, qui est donc cet arc générateur qui permet d'organiser tous les bâtiments et qui permet aussi de rassembler et de traverser ces différentes venelles. cet arc donc, qui part du plus sec au plus humide. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu aussi organiser des petits parcs dans les centres des ensembles de bâtiments. Et ces petits parcs sont, donc ont des gradients d'humidité différents, des ambiances très différentes, car le végétal va aussi marquer ces ambiances. On aura une garrigue, un jardin méditerranéen, et puis ce qu'on a appelé le jardin anglais. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup d'arbres existants sur le terrain, donc on a fait un relevé avec le géomètre, un relevé très pointu. On a estampillé chaque arbre qu'on voulait et souhaitait garder. Ce n'est pas évident avec les sauvages que nous avons au niveau des entreprises. Bon, mais on a un contrepoids qui est donc de replanter énormément. Et donc aussi, face à cette architecture qui est quand même très, très différente, on a voulu homogénéiser et faire une enveloppe, une espèce de ceinture verte qui entoure tout ce nouveau quartier. Et donc, à chaque fois, on rentre dedans et on va découvrir ces paysages qui sont très différents. Voilà. Alors, donc là, vous avez sur le côté probablement des essences qui permettent de les caractériser. Il y aura des rochers sur le jardin sec de la garrigue. Il y aura un petit peu moins de rochers sur le jardin du centre. Et il y a des bassins qui sont très généreux. Et ces bassins, donc on les a travaillés avec un bureau d'études qui, c'est pas pipeau, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment les eaux pluviales qui vont être récoltées dans ces bassins. Et les venelles sont aussi des venelles qui sont bordées de noues plantées de façon à essayer d'accentuer l'intimité qu'on peut avoir sur tous les logements qui sont en rez-de-chaussée et qui donnent sur cet espace semi-public. À l'arrière, on a donc des jardins qui donnent sur les parcs et ces jardins sont limités par des terrassements. Donc on a aussi un équilibre dans les terrassements, des blais en blais, pour essayer de mettre à l'extérieur le moins de matériaux possible. Bon, c'est un peu trivial ce que je raconte pour terminer.
Voilà, je pense avec 100% d'énergie renouvelable, avec des bilans carbone neutres et sans pression sur les ressources naturelles.
Alors, les autoroutes seront recouvertes d'un toit de panneaux photovoltaïques.
Alors, les trois parcs paysagers qui nous ont permis notamment de créer de véritables cœurs d'îlots au centre des trois lots que nous avons créés. Alors, par ici, pour comparaison, on a comparé les deux plans masse. Donc, le plan des Ardillos des 1960, c'était des bâtiments donc tout en longueur, en R+1, donc très étalés, qui avait un stationnement uniquement en surface, donc beaucoup de surface étanche, et qui n'avait pas de cœur d'îlot à proprement parler. Les seuls espaces verts étaient ceux qui longeaient les bâtiments et qui ne permettaient pas aux usagers de se retrouver et de profiter de ces aménagements. Alors que le terrain fait quand même 4,7 hectares. Le nouvel aménagement des Ardillos 2020, lui, permet de réaliser trois parcs au milieu des trois îlots. Ils ont été conçus comme ça. Comme précisé Anouk, en bleu, vous voyez les bassins de rétention, les bassins d'orage qui permettent de récolter les eaux de pluie. Et en été, lorsqu'ils ne seront pas utilisés, ça sera de vraies surfaces pour vivre. On appelle ça Ardillos, le parc aménagé, parce que l'idée, c'est vraiment d'implanter des bâtiments dans un parc qui bénéficiera à l'ensemble du quartier, pas seulement aux habitants du parc. Il n'y a pas de clôture. C'est vraiment un parc ouvert. L'idée d'ailleurs, c'est bien que les riverains traversent la diagonale pour aller de part et d'autre et notamment rejoindre le tramway qui est situé au nord de l'opération. Et les venelles, pareil, seront utilisées à nouveau que pour des cycles doux et pour les services techniques. À titre de comparaison, on a marqué les surfaces étanches de l'opération et malgré une densification de l'opération de 326 logements, on arrive quand même à augmenter la surface d'espace vert sur le projet.
Paris Smart City 2050 a donc pour ambition de rendre la ville plus vivable, plus autonome, qu'elle fonctionne comme un organisme vivant.
On a réalisé également un travail important de concertation avec les locataires qui étaient dans le parc existant et qu'on a dû reloger pour pouvoir démolir les bâtiments existants, ont eu la possibilité ou d'intégrer un nouveau logement du parc Mésolia ou d'intégrer les logements vacants de la tranche 2 de l'opération. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser un travail de concertation avec eux pour pouvoir les reloger dans un logement qui permettra... qui correspond à leurs besoins actuels et qu'ils peuvent financer. Donc ça, c'est le travail du moment, justement, puisque en mars 2018, nous avons livré la tranche 1 de l'opération.
pour construire
entre avril et juin 2018, nous souhaitons reloger les locataires de la phase 2 dans la tranche 1 de l'opération. Entre juin et novembre 2018, nous désamiantons les logements existants et nous démolissons les bâtiments existants. Et nous commençons les travaux de la tranche 2 en novembre 2018 pour 2 ans de travaux. Donc on arrivera en novembre 2020 pour la livraison définitive de l'opération.
À la maison, il y aura plein de nouveaux gadgets.
Voilà, et quelques perspectives des projets. Je vais laisser la parole à Michel Moga qui va vous expliquer comment la concertation et comment les lignes directrices de l'opération ont été intégrées dans les différents projets.
Merci. Tu as raison. Bonsoir.
L'avenir sera hyper connecté.
J'étais pas présent dans la première partie de la concertation parce que c'était un projet qui avait été confié à Opus 2 qui a dû cesser son activité. Donc nous avons repris un projet avant le permis de construire et nous avons recomposé un peu l'architecture pour essayer d'avoir notre écriture, mais les grandes intentions étaient en place. Le fait qu'il y ait trois agences d'architecture qui interviennent sur la première tranche permet d'avoir trois écritures différentes à partir de règles communes. Les règles communes, c'était un socle de deux niveaux composé par des duplex, puisqu'il était souhaité que les grands logements puissent profiter des espaces extérieurs proches et aussi des logements dans lesquels il y a plus d'occupants et donc pour éviter le bruit dans les étages. Ensuite, il y avait trois ou quatre niveaux de logements courants et une attique. Il y avait toujours des attiques. C'était toujours des logements traversants. Les parkings étaient complètement enterrés dans les trois cas, sur une largeur d'à peu près 15 à 17 mètres. Et l'emprise du logement était ainsi définie, avec des grandes loggias, toujours orientées vers le cœur d'îlot, et des dessertes par coursives extérieures. Nous, dans notre projet, nous avons essayé d'éloigner les coursives des fenêtres des chambres et des entrées, ce qui fait que ça fait des vides qui amènent de la lumière dans les chambres et qui donnent de la diversité à la façade. Donc il y a beaucoup de compositions de différents plans sur les façades et chacun a utilisé le matériau, par exemple Tessère Touton qui s'appelle maintenant Tessère du Bénin, tout le monde change, a utilisé du métal en soubassement et des isolations extérieures en étage. Nous avons plutôt travaillé avec du bois pour des paravents et fait aussi des sortes de celliers en bois sur les coursives à l'entrée des logements parce qu'on manque toujours de rangement et après, ce sont les balcons qui servent de rangement. Donc chacun, il y avait aussi la volonté d'avoir une architecture blanche et assez composée. Donc je veux dire, à travers les architectures qui sont peut-être un peu austères, l'ensemble, par la forme des logements qui s'implantent autour de la cour, l'ensemble, maintenant que les chantiers sont très bien avancés, c'est très agréable d'échelle et Anouk a fait un très beau travail qu'on verra un peu plus tard. Mais je pense que ce sont des espaces agréables, qu'il y a une ambiance très paisible. Il y a surtout, il faut le noter par rapport au logement social, l'avantage par rapport au logement du promoteur, c'est qu'au moins tout l'argent qui est mis va au projet. Il n'y a pas des marges de commerciants, etc. Donc on sent que dans ces projets, il y a beaucoup de générosité et dans les espaces, dans les aménagements extérieurs. Donc merci Mesolia.
Voilà, donc ici, les perspectives des bâtiments de la tranche 1 qui seront livrés dès mars 2018. Donc, le bâtiment Hachy de l'agence Mog Architectes. Sur l'opération, il y a un petit commerce ici, 244 mètres carrés, qui n'est pas encore commercialisé. On ne sait pas encore qui aura le bail. Mais sinon, ce ne sont que des logements, donc 526 logements et ce petit commerce qui avait été demandé par la ville de Mérignac justement pendant ces phases de concertation. Je reviens en arrière pour vous présenter le bâtiment de l'architecte Andrieu Laclaftine. Donc pareil, toujours des coursives extérieures. Alors là, on est depuis le cœur d'îlot. Si vous voulez l'idée de faire des coursives extérieures, c'était de permettre d'avoir uniquement des logements traversants. On arrive depuis l'extérieur du logement par rapport au cœur d'îlot et on pénètre dans le logement traversant avec des salles de vie, des pièces de vie qui donnent sur le cœur d'îlot systématiquement. Donc on a à la fois une double exposition et à la fois les pièces de vie qui sont orientées vers les cœurs d'îlot. Donc l'idée, c'était de rendre le logement agréable et puis de profiter aussi de la double exposition pour les apports solaires et les économies d'énergie en général. Donc là, on voit bien, là, on est du côté du cœur d'îlot, puisque ce ne sont pas des coursives qui sont de ce côté-là, mais des espaces extérieurs propres à chaque logement, donc des terrasses, des balcons, des loggias. Le bâtiment de Mog Architect, donc là, par contre, on est du côté de la Venelle. Ici, on voit la Venelle A qui sera réalisée. Et de ce côté-là, ce sont les coursives du bâtiment, sachant que de l'autre côté, il y a les espaces extérieurs propres à chaque logement. Ici, ce sont les espaces communs qui permettent de desservir chacun des logements. Et de l'autre côté, les espaces privatifs. Donc, il n'y a pas de hall, si vous voulez, de hall traditionnel qui desservent les logements par palier. Voilà, et là, on est sur les bâtiments de la tranche 2 de l'opération. Donc, ils ne seront démarrés qu'en fin 2018 et livrés en 2020. Sur le développement durable. Et ici, on est sur le cœur d'îlot numéro 3, avec une architecture peu banale, mais agréable. Grâce à des et les espaces extérieurs, à nouveau, de ce côté-là, et les attiques. Donc, on a souvent des maisons de toit. Sur les attiques, ici on voit les duplex en toiture. Voilà, et les bâtiments du studio Bellecour qui sont la proue du parc aménagé, qui donnent, si vous voulez, quand on sort de la rocade, c'est les premiers bâtiments que l'on verra, et qui donnent directement en bas à gauche du plan masse, si vous vous souvenez de l'aménagement général.
Nous bénéficions d'une interaction illimitée. Ainsi que d'une
j'ai terminé ma présentation.
Globale.
Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je reviendrai volontiers sur les phases de l'opération. J'espère que vous avez bien compris l'aménagement et tout le processus qui 2050. A été mis en place pour pouvoir densifier l'opération en nuisant au minimum à nos locataires en place.
Le fait maison
et
le
tout le montage juridique qui est réalisé entre les différents maîtres d'ouvrage, la mixité sociale qui a été souhaitée sur l'opération, donc faire rentrer dans le tour de table des maîtres d'ouvrage, le toit girondin qui s'occupe de l'accession sociale, on a une vraie volonté de proposer à nos locataires de pouvoir accéder à la propriété.
Le recyclage assure le renouvellement des fournitures et la continuation de l'impression en 3D. Nous sommes dans un monde qui se caractérise par sa diversité. Mais existe-t-il d'autres possibilités ?
Alors, c'est un projet qui a été primé, me demande Monsieur Moga. C'est un projet qui a été primé dans notre groupe Arcade. On fait partie du groupe Arcade. On l'a présenté parmi toutes les filiales du groupe et nous avons reçu le prix de l'innovation pour cette opération. Au-delà de ça, plus simplement, les bâtiments sont certifiés CERCAL pour pouvoir répondre au maximum aux exigences environnementales qui deviennent maintenant presque monnaie courante sur les nouvelles constructions que nous faisons. Écoutez, merci pour votre attention. Donc, bonne journée.
L'avenir va-t-il nous ramener au passé ? Ou existe-t-il d'autres mondes possibles ? 2050. Les conditions météorologiques extrêmes qui sévissent sur les routes d'approvisionnement nécessitent une nouvelle réflexion. La société fait preuve de réticence face à la prise de risque. L'humanité accepte sa vulnérabilité. Les nouveaux moyens logistiques favorisent la naissance de solutions réactives et sûres. Même en cas d'urgence, une réaction immédiate est garantie parce qu'assurer la chaîne d'approvisionnement constitue une priorité absolue. Des solutions souples et hautes technologies sont appliquées afin d'assurer une réponse rapide aux événements imprévus. Le monde est devenu résilient. Des scénarios